Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, je vous avoue que des histoires comme celle de l'Évangile d'aujourd'hui ne manquent pas de m'émerveiller et même de me bouleverser. On peut y découvrir rien moins que le Fils de Dieu lui-même, l'Éternel, l'un des trois, qui est Providence, c'est-à-dire que tout l'univers est à ses pieds, et il a pour charge colossale, qui pour lui n'est rien, de faire tourner le monde. Vous voyez qu'il a bien des chats à fouetter, et pourtant, dans la scène d'aujourd'hui, il accepte de focaliser son attention, j'allais dire toute son attention, sur le sort d'une seule de ses petites créatures. Voyez ça, le contraste entre ce Dieu provident, qui doit s'occuper de tout, et Jésus, dans lequel s'est incarné Dieu, ce même Dieu provident, qui ne s'intéresse qu'à une petite créature du bord de la route du village de Naïm. Vous voyez quand même qu'il s'agit là de quelque chose de bouleversant. Il y a des foules autour de Jésus, il faut les enseigner, on nous le dit. Il y a ce projet que Jésus a de réaliser le salut de l'humanité en étant livré en croix. Il a bien des choses à faire, ce Jésus, sur les routes de Palestine. Et voilà qu'il s'arrête un instant et que le monde semble cesser de tourner parce que Jésus, arrêtant le cortège et le sien qui est en liesse et le cortège funéraire de l'enfant, ne s'intéresse pour un instant qu'au sort de cette femme veuve dont le fils unique est décédé. Il y a encore autre chose, ce même fils éternel de Dieu jouit depuis toujours et pour toujours d'un bonheur, d'une satiété, d'une paix absolument parfaite, due à l'intimité dans laquelle il est avec le Père et le Saint-Esprit. Jésus n'a besoin de rien en tant qu'il est fils de Dieu. Et il est dans une joie indicible. Et pourtant, il accepte d'être touché, d'être bouleversé, d'être ému par la situation de cette petite femme de la ville de Naïm. Il est comme blessé par sa situation, lui qui est immuable et le parfaitement bienheureux. Avouez qu'il s'agit là tout de même d'un mystère bien bouleversant. C'est cette expression qu'on nous donne dans l'évangile d'aujourd'hui, « il eut pitié d'elle ». La traduction française, comme bien souvent, rend très mal la puissance du terme original, ou du moins du terme latin. Le terme latin, c'est « misericordia motus ». Il a été ému, il a été bouleversé, en fait, par la miséricorde. Vous voyez que ce cœur de Jésus, qui n'a besoin de rien, qui est parfaitement bienheureux en tant qu'il est le Fils de Dieu, se laisse toucher par une situation conjoncturelle, par une misère d'une de ses créatures. C'est le même phénomène qui se reproduit, vous le savez bien, au moment de la mort de Lazare. On nous dit qu'il frémit dans son âme, au plus profond de son âme, nous dit l'Écriture, et qu'il pleura. C'est la même chose avec le jeune homme riche, sur un ton plus léger. Il se prit à l'aimer. Il fut touché par cet homme riche qui appliquait les commandements et qui souhaitait faire la volonté de Dieu. Voyez cette magnanimité, voyez cette miséricorde de notre Dieu en comparaison de notre pauvre petite conduite étriquée. Nous sommes, nous, c'est pourtant ses disciples, nous prétextons en permanence que nous n'avons pas le temps de nous occuper, de nous arrêter un instant pour nous occuper d'un badaud, pour nous occuper d'une personne en difficulté. Nous n'avons pas le temps. Nous avons notre devoir d'État à accomplir, voyez. Mais est-ce qu'on a un univers à faire tourner, mes frères? Lui, Jésus, oui. Et pourtant, il prend le temps, en dépit de tout ce qu'il a à faire, de s'arrêter un instant, et longtemps s'il le faut, pour parler avec la Samaritaine sur le bord du puits, pour s'occuper de cette pauvre veuve, parce qu'il est ému, voyez, jusqu'au tri de tout ce qui se passe sur cette terre. On remet toujours à plus tard, mais plus tard et demain, nous mourrons, mes frères. Voyez, est-ce que nous avons conscience que notre cœur, tellement dur, tellement hermétique, a peur d'être affecté? En fait, je crois que c'est une réaction de peur. Nous avons peur d'être affectés, d'être blessés par ce qui se passe autour de nous. Alors, nous préférons une sérénité éphémère. Nous préférons nous mettre dans notre coquille. Et lui, pourtant, l'Éternel, Jésus, qui est dans sa parfaite béatitude, accepte de sortir de cette béatitude un temps, si j'ose dire, parce qu'il est resté toujours bienheureux, bien sûr, sinon il aurait cessé d'appartenir à la Trinité, ce qui est impossible. Mais il a comme mis à la fine pointe de l'âme, dit saint Thomas d'Aquin, cette béatitude, pour prendre à bras le corps notre souffrance et entrer dans l'émotivité et entrer dans la compassion. Et nous-mêmes, qui sommes en permanence, qui sommes reluctants devant la moindre compassion. Compassion d'un instant qui n'aboutit pas à grand-chose. Alors, mes chers frères, comment est-ce que nous pourrions ne pas être touchés, bouleversés par ce paradoxe d'un Dieu tout autre qui accepte une telle compassion, par la magnanimité de notre Dieu, cette magnanimité qui affleure dans tout le texte, et plus encore par un détail. Vous ne l'avez peut-être pas noté, ce détail. Jésus n'exige rien. D'habitude, dans les textes de miracles, dans les textes de guérison, le Seigneur demande la foi de l'autre. Et il le dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Voyez ? Ou « Va et ne pêche plus. » Il demande que nous soyons convertis pour nous exaucer. Ici, rien. Il n'adresse pas un mot à la veuve de reproche ou de conseil. Il ne lui demande rien. Il arrive et de son propre chef, il ressuscite son enfant tandis qu'elle n'a rien demandé. Voyez cette grandeur de Dieu, cette prévenance de ce Dieu et cet amour, partant de ce Dieu pour nous. Je pense qu'on peut faire de ce texte une lecture symbolique. Comme vous le savez, l'Écriture tolère toutes sortes de lectures. Une lecture littérale, celle à laquelle je viens de faire allusion. Cette histoire qui a eu lieu sur les routes de Palestine il y a 2000 ans, avec ce Jésus, un cortège en liesse, un cortège dans la tristesse, cette femme, son fils mort, bien sûr. Il faut recevoir l'historicité des faits. Et en même temps, nous pouvons faire, ce n'est pas péché, que de faire une interprétation symbolique de ce qui s'est passé. Voyez, derrière les traits de la veuve, permettez-moi de voir, je me réclame quand même de quelques pères de l'Église, une humanité qui est en deuil. Elle est en deuil de quoi, cette humanité? Elle est d'abord en deuil, puisqu'on nous dit qu'elle est veuve, elle est en deuil de son époux. Mais qui est cet époux? Mais c'est une sorte de dictateur entre les mains desquels elle était tombée. Cette veuve est triste d'avoir perdu celui ou ceux qui la faisaient rêver, qui lui donnaient des espérances toutes humaines. Vous voyez, c'est en un mot notre race humaine, moderne, qui se retrouve seule, désabusée après l'échec de tous les systèmes totalitaires. Qui on a menti, cette veuve, vous voyez. Et cette veuve a un fils unique mort. Qui est ce fils unique mort? Mais c'est chacun de nos contemporains. Ce sont bien les fils de leur temps. Et si nous-mêmes ne veillons pas à chaque instant à nous arracher du monde contemporain, au moins en esprit, pour ne pas entrer dans sa logique, alors nous devenons des fils morts de la veuve. Ils vivent, certes, ils mangent, ils boivent et toutes sortes de choses qu'on fait avec, mais ils sont comme morts, regardez-les, au fil de l'eau, comme un cadavre qui dégouline avec l'eau du fleuve. Ils se laissent porter, ils sont morts dans leur âme, voyez. Et cette foule qui est attristée autour d'eux, qu'est-elle cette foule? Mais c'est notre bon vieil Occident désabusé, qui ne cesse de gémir, de geindre sur la situation présente, triste, pénétré par cette culture de mort, mais qui n'accepte pas d'examiner de près les facteurs de la situation. Le jour où on est dans un cortège funéraire, on ne s'interroge pas sur le pourquoi du comment de la mort de la personne. Non, on est attristé, on est atterré par le fait qu'on porte un ami dans la tombe. Vous voyez que cette lecture un peu symbolique des choses nous permet de rendre ce texte très actuel. Mais où veux-je en venir? Quelle sera la chute de ce sermon? Bien, en réalité, nous-mêmes devons nous identifier à la foule qui entoure Jésus, cette foule qui est en liesse, cette foule qui suit Jésus depuis quelques mois, depuis quelques années peut-être, et qui a la consolation d'avoir avec elle celui qui est la vérité et la vie. Vous voyez, il y a un paradoxe, et le texte, c'est trop clair. Le texte veut insister sur ce paradoxe. On n'aurait pas fait allusion à cette foule qui suivait Jésus, qui était en train d'entourer le maître, de jouir de la présence du maître, et sur cette autre foule qui accompagne le cortège funéraire. Vous voyez, quel est le rôle de cette foule joyeuse qui entoure Jésus, sinon de réchauffer le cœur de cette veuve, voire même d'attirer l'attention de cette veuve? Sans doute la veuve a-t-elle, avant même que Jésus lui adresse la parole, été saisie par la présence de cette foule lumineuse, de cette foule joyeuse, alors même qu'elle et les siens étaient dans la tristesse. Elle a alors levé les yeux, sans doute, vers Jésus. Le texte ne nous dit rien, mais nous pouvons nous permettre de subodorer. Elle s'est mise à regarder Jésus. Alors peut-être un peu d'espérance est née dans son cœur. Mes amis, nous sommes là pour évangéliser ce monde qui est en deuil, ce monde qui n'est constitué que de cadavres à demi-vivants. Voilà ce que la tâche, en tout cas, que nous confie le Saint-Père. Je vous en reparlerai, et cette année, je vous en reparlerai à l'envi. Vous le pardonnerez, mais je ne fais que suivre les consignes du Saint-Père. Nous allons entrer au mois d'octobre dans une année de la foi. J'aime autant vous dire que cette année de la foi, on va marquer le coup. Parce que c'est très important de suivre vraiment ce que nous demande le Saint-Père. Il a, par une lettre apostolique écrite il y a maintenant près d'un an, « Porta Fidei », il a ouvert cette année de la foi. C'est un motu proprio par lequel il explique que d'octobre 2012, c'est demain, à novembre 2013, avec la fête du Christ roi selon le nouveau calendrier, il y aurait une année de la foi. Je vous en reparlerai, mais le but de cette année de la foi est double. Il est à la fois de nous réchauffer l'intelligence et le cœur, de sorte que par une nouvelle conversion, par une nouvelle étude de tous les dogmes de notre belle religion, nous nous rapprochions du Christ, que nous soyons vraiment la foule qui entoure Jésus le jour où il entre à Naïm, et en même temps que nous évangélisions à nouveau ce monde qui est tellement loin de Dieu, ce monde qui est mort. Et nous verrons selon quelle modalité pratique nous pourrons donc essayer de mettre en application ce que je viens de vous dire à propos des deux cortèges et de cette veuve de Naïm. Pour l'heure, contentons-nous de contempler la magnanimité de ce Dieu qui n'avait besoin de rien et qui a la charge de tout l'univers et qui pourtant se penche sur une seule petite personne, chacune de nos âmes en particulier, à chaque instant, et qui en même temps compatit et même accepte sans aucun, dans un premier temps du moins, sans effort de notre part, de nous rejoindre dans notre misère et de nous réchauffer le cœur et l'intelligence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.